Formation biblique de disciples, cours numéro 13, la prière. Section 5, jeûne, supplication, intercession, expression et gestes prophétiques. Première partie, le jeûne. Le jeûne est une arme spirituelle qui n'est pas très utilisée de nos jours. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais jeûné. Y concourir contribue à la puissance et à la croissance de notre vie spirituelle. Il y a beaucoup d'avantages à jeûner. Lisez Ésaïe 58. Petit 1, les différentes sortes de jeûne. Les bienfaits du jeûne. Le jeûne nous aide à retrouver la maîtrise de notre corps. Au lieu d'être à la merci de notre corps, nous nourrissons notre esprit en jeûnant. Le jeûne nous donne le pouvoir de vaincre les tentations parce que notre attention est fixée sur les choses spirituelles. Il nous apporte la sagesse dans les décisions importantes. Le jeûne prépare le disciple à une responsabilité efficace puisque seul le chrétien peut battre l'ennemi. Jésus n'est pas le premier à avoir jeûné dans le Nouveau Testament. Bien sûr, d'autres personnes ont jeûné bien avant et même pendant sa venue sur terre. En Luc 2, versets 36 et 37, il y avait aussi une prophétesse, Anna, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Donc le jeûne était déjà connu et pratiqué sérieusement pour ceux qui exerçaient des fonctions au temple de Jérusalem et synagogue de son temps. Mais le Seigneur l'exerça dans la puissance de l'Esprit de Dieu et selon la Torah. Jésus commença son jeûne dans un désert et après son temps de jeûne, le diable vint le tenter pour sortir de la volonté de Dieu pour sa vie terrestre. Nous lisons ce récit dans Luc 4, versets 1 et 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le moment où le Seigneur entra dans son jeûne, il est écrit qu'il était simplement rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire baptisé dans l'Esprit, ou né de Dieu dans son esprit humain. Mais qu'après son temps de jeûne personnel, Jésus fut revêtu de la puissance de l'Esprit, c'est-à-dire recouvert de la puissance dans son être entier. Lisez Luc 4, verset 14 et Luc 4, verset 18. Petit 2. L'enseignement du Seigneur Jésus-Christ sur le jeûne. Au sujet du jeûne qu'a enseigné Jésus à ses disciples, nous trouvons la réponse dans Matthieu 6, versets 16 à 18. « Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Notez que le Seigneur Jésus ne dit pas si tu jeûnes, mais quand tu jeûnes. Il n'a laissé aucun doute sur le fait qu'on se livrait dans l'obéissance à la direction du Saint-Esprit. Dans Matthieu 9, versets 14 et 15, nous trouvons la seconde déclaration de Jésus sur le jeûne. Alors les disciples de Jean le Baptiste, vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent-ils point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Les disciples de Jean le baptiseur demandèrent au Seigneur Jésus cette question ci-dessus, mais la réponse de Jésus est tout à fait pertinente et répond bien à cette question de savoir si les chrétiens d'aujourd'hui doivent jeûner. Le Seigneur Jésus leur répond ceci. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Le jour viendra où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Concernant le jeûne, c'est peut-être la déclaration la plus importante du Nouveau Testament. Nous supposons que la période d'absence dont parle Jésus à propos de l'époux correspond à la période dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire celle comprise entre son ascension vers le Père céleste et son retour parmi nous sur terre. Il paraît évident que c'est ainsi que ses apôtres l'entendaient, puisque ce n'est qu'après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ au ciel que nous les voyons jeûner. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Pendant qu'ils servaient le Seigneur Jésus dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». On le lit dans Actes 13, versets 1 et 2. Comme l'Église du commencement ou primitive, nous avons le devoir de jeûner. Il y a quatre sortes de jeûne biblique. Premièrement, le jeûne partiel. Deuxièmement, le jeûne naturel. Troisièmement, le jeûne total. Quatrièmement, le jeûne collectif. Le jeûne partiel. Le jeûne partiel est plus une diète qu'une abstention de nourriture. Daniel et ses compagnons nous donnent un exemple du jeûne partiel. Dans Daniel 1, versets 8 à 15. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Anania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. » Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Cette sorte de jeûne est pratiquée en mangeant que des légumes et de l'eau. Bien que nous ne puissions affirmer qu'il y ait une intervention surnaturelle de Dieu dans la durée, ni le commencement du jeûne de Daniel et de ses 3 autres camarades, nous remarquons qu'à la fin de leur temps de jeûne partiel, que le Seigneur les bénit tous les quatre. En Daniel 1, verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. La valeur du jeûne partiel n'est pas uniquement limitée au domaine physique. Dans le livre de Daniel, nous voyons qu'il fit un autre jeûne partiel, en Daniel 10, versets 2 et 3. La valeur de ce jeûne spirituel consiste à rechercher Dieu pendant une période spéciale où la nourriture et le jeûne partiel sont d'une grande importance, surtout quand les circonstances empêchent le jeûne naturel. Quand faut-il utiliser le jeûne partiel? Durant votre temps de travail dans une entreprise, en exerçant un travail à caractère difficile, comme par exemple routier, maçon, manutentionnaire, pilote, policier, gardiennage, etc. Avec des problèmes physiques, exemple des maladies compliquées mais non mortelles, des faiblesses musculaires, etc. Avec des problèmes psychiatriques et ou psychiques, exemple névrose, démence, paranoïa sans dommage, grave de type hallucinatoire, etc. Durant des réunions familiales, amicales et spirituelles, pendant la durée d'un déplacement privé et ou professionnel, exemple en local, en national, en international, pour la restauration de votre équilibre physiologique esprit-âme et corps, pour la guérison intérieure dans vos émotions, dans les pensées et le cœur, pour le raffermissement de vos facultés physiques et mentales, selon ce vieil adage, bien dans sa tête et bien dans ses baskets. Le jeûne naturel. Le jeûne naturel est l'abstinence de toute forme de nourriture, mais pas de liquide, comme l'eau et le jus de fruits, le thé, le café, les tisanes, le lait, à l'exemple du Seigneur Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. La Bible déclare que Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits et qu'après il eut faim. Bien que ce passage ne nous donne pas tous les détails, nous pouvons supposer qu'il s'est abstenu de toute forme de nourriture, mais pas d'eau parce que le texte nous dit « Il ne mangea rien, mais ce texte ne parle pas de boisson. Bien que les douleurs provoquées par la soif soient plus intenses que celles provoquées par la faim, Satan ne l'a pas tenté pour qu'il boive, mais pour qu'il mange. Il est possible que le jeûne naturel de Jésus ait concerné la nourriture, mais pas la boisson. Quand faut-il utiliser le jeûne naturel? Pour la consécration au ministère à plein temps, Luc 4, verset 14. Pour l'efficacité dans le témoignage de Jésus, Acte 1, verset 8. Pour des directives précises et incontestables à l'appel de Dieu sur votre vie, pour entrer dans une activité missionnaire, pour recevoir l'appel, la vision, l'envoi, acte 13, versets 2 à 4, pour revêtir l'équipement surnaturel, l'onction de l'esprit, Luc 24, verset 49. Le jeûne total. Le jeûne total consiste à s'abstenir de nourriture et aussi de boissons, même de l'eau. Normalement, cette sorte de jeûne n'excédait pas plus de 3 jours successifs, peut-être parce que cela pouvait être préjudiciable pour le corps physique s'il durait plus longtemps. Ne pratiquez jamais de jeûne total prolongé sans l'avis de votre médecin. Il y a beaucoup d'exemples dans les Écritures de la pratique de ce jeûne total. Dans Esdras 10, verset 6, puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu et il alla dans la chambre de Joshana, fils d'Éliashib. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. Dans Esther 4, verset 16, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi. Les autres jeûnes totaux dont parlent les Saintes Écritures font référence à Moïse, homme de Dieu. Il s'agit des 2 jeûnes complets que Moïse, sur ordre de Dieu, fit dans la présence du Seigneur par la force surnaturelle de son Saint-Esprit. La première fois, pour recevoir les 10 commandements de Dieu, en Exode 34, verset 28, l'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Et la deuxième pour l'idolâtrie du veau d'or d'Israël. En Deutéronome 9, verset 9, lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Pour finir, quelques conseils pour faire un jeûne total. Nous pouvons utiliser cette sorte de jeûne comme une arme spirituelle extraordinaire dans des situations peu communes. En général, il est réservé aux situations d'urgence spirituelle. Ainsi, la personne doit s'assurer que Dieu la conduit à pratiquer ce genre de jeûne dont la durée dépasse 3 jours. Quand faut-il utiliser le jeûne total? Premièrement, guérir de maladies graves ou mortelles. Deuxièmement, pour libérer d'emprisonnements spirituels et physiques. Troisièmement, pour vaincre les persécutions. Quatrièmement, pour briser les conflits relationnels. Cinquièmement, pour délivrer d'harcèlements moraux et physiques. Sixièmement, pour grandir spirituellement. Septièmement, pour servir efficacement dans le ministère. Huitièmement, pour résister aux attaques du diable. Neuvièmement, pour recevoir les directives du Seigneur. Dixièmement, pour obtenir une victoire rapide. Onzièmement, pour recevoir la puissance de Dieu. Le jeûne collectif. Nous avons parlé de 3 sortes de jeûne. En fait, nous avons fait le point sur le jeûne individuel, mais dans certains cas, le jeûne collectif d'un groupe dans le peuple de Dieu, Israël et l'Église de Jésus-Christ, pour un motif qui concerne tout le monde ensemble, est nécessaire. Pour cette occasion, chaque membre de l'Église pratique au même moment ce type de jeûne appelé collectif pour rappeler sa nature et son importance numérique. Historiquement, ce type de jeûne remonte au temps de Moïse, serviteur de l'Éternel Dieu d'Israël. De nos jours encore, les Juifs le pratiquent selon la loi de Moïse. Dans Ésaïe 58, versets 4 et 5, voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Dans le ministère, les premiers missionnaires commençaient par un jeûne de consécration. Plus loin, nous voyons que la désignation des anciens se fait par le jeûne et la prière. En Actes 14, verset 23, ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur Jésus en qui ils avaient cru. Un autre but du jeûne collectif est de conduire les frères et les sœurs à la vie dans la liberté de l'esprit, ou appelé aujourd'hui le réveil spirituel pour d'autres chrétiens, cela s'appelle de la délivrance. Voir Romains 8, verset 2 et Romains 8, verset 11. Beaucoup de personnes dans nos assemblées chrétiennes sont liées par des puissances spirituelles démoniaques, comme enchaînées dans une vie spirituelle improductive et impuissante. Voir l'histoire du figuier maudit par Jésus. Quand faut-il utiliser le jeûne collectif? Premièrement, pour exercer le ministère de délivrance spirituelle contre les démons. Deuxièmement, pour exercer celui de la guérison divine. Troisièmement, pour apporter et avant d'apporter l'évangile du Seigneur en dehors de l'assemblée. Quatrièmement, pour conduire des chrétiens dans une vie spirituelle libérée et épanouie. Cinquièmement, avant la nomination et l'établissement de responsables, des diacres, des anciens et des ministères. Sixièmement, pour la consécration d'une nouvelle assemblée devant Dieu. Septièmement, avant d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Huitièmement, avant de faire des dons d'argent à des œuvres diverses, sociales, humanitaires, ecclésiales. Deuxième partie, les supplications. Les prières de supplication, de pleurs pouvant être associées au jeûne, sont utilisées en cas de force majeure, de vie ou de mort, dans les cas graves, etc. Dans la détresse, dans le danger, dans la nécessité, le croyant crie à son Dieu. Abandonné de tous, David s'était réfugié dans la caverne où il compose le psaume 142. Au verset 1 et 2, de ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix je supplie l'Éternel, je répands devant lui ma plainte, je déclare ma détresse devant lui. Pierre, voyant que le vent était fort et commençant à enfoncer dans la mer, s'écrie en Matthieu 14, verset 30, Seigneur, sauve-moi. Jésus ne le fait pas attendre. Aussitôt, il étend sa main et le prend. Dans la parabole des trois amis, l'autre n'a point de pain pour le voyageur. Que faire? Il se lève à minuit et va dire à son voisin, en Luc 11, verset 5, Ami, prête-moi trois pains. Si l'on est conscient d'avoir manqué et d'être sous les conséquences de cette faute, peut-on crier à lui? Le psaume 130 nous donne la réponse. Je t'ai invoqué des lieux profonds, ô éternel Seigneur. Écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu prends garde aux iniquités, Seigneur, qui subsistera? Mais il y a un pardon auprès de toi, afin que tu sois craint. Supposons que mon âme ait perdu la communion avec Dieu. Mon cœur naturel dira, je dois en corriger la cause avant de pouvoir venir à Christ. Mais il est plein de grâce, et si nous le savons, notre devoir est de revenir à lui immédiatement tel que nous sommes, et ensuite de nous humilier profondément devant lui. Ce n'est qu'en lui et par lui que nous trouverons ce qui restaure nos âmes. En Luc 11, verset 9, Demandez et il vous sera donné, disait Jésus à ses disciples. Il vous sera donné, pas nécessairement les choses que vous avez demandées, mais celles que Dieu, dans sa sagesse, juge bonnes pour vous. Même un père terrestre sait donner à ses enfants des choses bonnes. Elles ne sont pas toujours conformes à leurs désirs. Combien plus le Père qui est au ciel donnera-t-il? Luc 11, verset 13. Ainsi, dans le besoin pressant, nous pouvons avoir confiance dans la bonté et la sagesse de notre Père. Mais cela ne nous empêche pas de prier en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Troisième partie, l'intercession. Premièrement, l'intercession est une mission spéciale pour les disciples de Jésus. Les chrétiens sont appelés à accomplir un travail bien particulier par leur prière. Ils ne doivent pas seulement demander des choses pour eux-mêmes, mais se tenir sur la brèche devant Dieu et pour d'autres. Ceci est un aspect essentiel du mandat que Jésus nous a donné sur la terre. C'est la prière qui met les choses en mouvement dans le monde spirituel. Jésus lui-même intercède pour nous et nous sommes appelés à le suivre avec détermination dans ce domaine également. Cependant, l'œuvre de la prière ne se suffit pas à elle-même. Nous avons besoin de bien plus si nous voulons véritablement entrer dans l'intercession. De Jésus, notre modèle, coulait un immense flot de compassion. C'était la force qui le motivait. La puissance qui habite l'intercession provient d'un sentiment débordant et spontané de compassion et d'amour. Ce sont en général des sentiments très naturels quand il s'agit de notre propre famille et de nos amis, mais il est également bon de permettre au Seigneur de déposer d'autres sujets dans nos cœurs. Si nous sentons un fardeau d'intercession sur le cœur, cela signifie que Dieu veut nous confier quelque chose d'important. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. L'Ancien Testament nous donne des exemples impressionnants de prières. Abraham pria Dieu pour Abimélec et pour les villes de Sodome et Gomorre qui étaient destinées à la destruction. Moïse, Salomon, Élie, Ézéchiel, Daniel, Esdras, Esther, Jérémie et beaucoup d'autres prophètes prièrent pour le peuple d'Israël. Il existe même des psaumes d'intercession dans la Bible. Petit 2, l'intercession a la puissance de changer le cours des choses. En tant qu'évangéliste, je suis appelée à me tenir devant de grandes foules, mais jamais je n'oserais leur prêcher le message de la bonne nouvelle si je n'étais pas sûre qu'il y a eu de l'intercession pour ces gens. Durant nos campagnes d'évangélisation, mon âme est remplie d'un esprit de prière et d'intercession. Parfois, je me lève en pleine nuit. Des centaines et parfois même des milliers d'intercesseurs me soutiennent dans la prière lorsque je suis à l'œuvre sur la plateforme. Pour mon esprit, cela ressemble à un puissant souffle d'air qui permet à un aigle de s'envoler vers les cimes. Je regarde cette mer humaine devant moi et je sais que Satan devra lâcher prise. En comparaison, dans le monde occidental, seulement quelques non-chrétiens s'aventurent à assister à une réunion d'évangélisation. S'ils viennent à ce genre de réunion, c'est souvent parce qu'ils ont été invités par quelqu'un qui a intercédé en leur faveur devant Dieu durant un certain temps et qui a préparé le terrain. Mais qu'en est-il des gens dans les pays surpeuplés d'Afrique, d'Asie, en Chine, en Inde et en Indonésie? Combien d'entre eux ont-ils été portés dans la prière devant le Seigneur? Qui intercède et se tient sur la brèche pour eux, comme nous le lisons dans Ézéchiel? Ces foules immenses se composent d'innombrables individus uniques et précieux. Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Si nous ne prions pas pour eux, qui le fera? Nos prières percent les ténèbres d'un monde torturé comme des armes au laser. Elles sont comme des rayons de lumière qui apportent la bénédiction de Dieu sur la terre, transmettant la puissance de Golgotha et la résurrection de Jésus. L'intercession a la puissance de changer les choses qui semblait inchangeable et de bloquer l'influence qu'aimerait exercer le diable. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Si Dieu avait trouvé une telle personne lorsqu'Ézéchiel écrivait ce passage, ceci aurait été inévitablement mentionné dans le livre du prophète. Et son nom aurait été immortalisé. Lorsque nous intercédons, nous nous joignons aux troupes d'élite de Dieu, une armée de guerriers engagés, qui sont bien connus au ciel et qui accomplissent de grandes choses. Petit 3, intercession, car il n'y a personne d'insignifiant aux yeux de Dieu. Chaque être humain a une valeur incomparable. L'intensité de nos prières devrait aller de pair avec l'état désespéré duquel les gens doivent être libérés. Plus ils sont enchaînés par le monde, plus notre intercession doit être intense. Personne ne devrait vivre sans avoir quelqu'un qui prie pour elle ou pour lui. Lorsque nous lisons 1 Timothée 2 versets 1 à 4, nous réalisons que le but ultime et suprême de l'intercession est l'évangélisation. Dieu veut que tous soient sauvés. Alors prenons d'assaut le trône et prions pour que beaucoup de gens soient sauvés et rachetés. L'intercession n'est pas un habillage pieux ou des mots vides, mais un cri à l'aide venant du cœur. L'intercession n'est pas accomplie et terminée par Seigneur bénis-moi et bénis les autres. Amen. Notre Seigneur pria avec ferveur pour nous jusqu'à suer du sang. Il pria même pour les soldats qui martelèrent les clous dans sa chair tremblante. L'intercession demande un engagement, du sérieux et de la fidélité. Priez pour tous les gens, car vivre sans Christ est une chose terrible. Il n'y a qu'un sauveur, et si les gens le rejettent, rien d'autre ne pourra les aider. Que peuvent-ils faire alors? Il n'y a aucune autre alternative. Voilà pourquoi l'intercession est absolument essentielle. Petit 4, l'intercession amène l'intervention divine. Plus de choses sont forgées dans la prière que le monde ne rêve de voir se passer. Alfred Lord Tennyson. Ceci sonne bien à nos oreilles, mais ce n'est que la moitié de la vérité. L'autre moitié devrait être, beaucoup de choses ne sont pas arrivées car de nombreuses personnes n'ont pas prié ce que le monde rêve de voir arriver. Beaucoup de prières, soi-disant inexaucées, sont probablement des prières qui n'ont jamais été vraiment priées. Néanmoins, si nous prions pour le salut d'une nation, nous pouvons être certains d'avoir l'attention immédiate de Dieu, car ces prières touchent directement le cœur des choses qui préoccupent le Seigneur. La prière du Seigneur commence par les mots Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voilà comment chaque prière d'intercession devrait commencer, car ce que nous voulons, c'est que son royaume arrive. Et toute intercession véritable se termine par les mots, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Petit 5, Moïse intercesseur. Bien des fois, le conducteur a intercédé pour Israël. Nous retiendrons particulièrement trois incidents. À Réphidim, Exode 17, versets 8 à 13. Le peuple doit mener un combat redoutable, en réalité un double combat. Josué dans la bataille contre Amalek, Moïse dans le combat spirituel sur le sommet de la colline. Josué dans la vallée se défend, l'épée et le javelot à la main. Moïse sur la montagne lutte avec les armes spirituelles. Éphésiens 6, verset 12 nous dit: Notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre la puissance spirituelle de méchanceté dans les lieux célestes. Il y a un combat à mener contre cette puissance. Nous n'avons pas à en être constamment préoccupés parce que le Seigneur Jésus a vaincu ses principautés et ses autorités. Colossiens 2, verset 15. Mais elles existent. Et dans ce conflit, la prière est une arme puissante. Pourquoi Moïse est-il monté sur le sommet de la colline? Tout d'abord, d'en haut, on voit bien ce qui se passe. Moïse voyait les combattants. Il pouvait prier avec intelligence. Avant d'intercéder, informons-nous des besoins précis. Par exemple, quant à l'œuvre du Seigneur à l'étranger, lisons soigneusement les lettres sur l'œuvre ou leur contrepartie en d'autres langues. Informons-nous des circonstances de nos frères en première ligne afin d'intercéder pour eux avec discernement. Sur le sommet d'une montagne, on est aussi vu. Les combattants contre Amalek apercevaient Moïse levant ses mains pour intercéder pour eux. Quel encouragement pour les serviteurs du Seigneur au loin de savoir qu'à l'arrière, leurs frères et sœurs individuellement et collectivement prient régulièrement avec ferveur pour les besoins du champ où eux-mêmes se trouvent. Le combat est dur. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël avait le dessus. Et pourrions-nous penser quand il reposait sa main que cela allait moins bien? La parole ne s'exprime pas ainsi. Quand il reposait sa main, Amalek avait le dessus. Il n'y a pas de neutralité dans le combat spirituel. Ou Dieu gagne, ou l'ennemi prévaut. Dans notre intercession, il faut garder cela à l'esprit. Il n'y a pas de situation neutre. Le combat de la vallée dépend de la prière sur la montagne. Moïse s'est fatigué. Nous aussi, dans l'intercession, nous pouvons parfois baisser les bras. Il est bon qu'il y ait Aaron et Hur. Sans doute le type a-t-il une double signification. Aaron nous parle du Seigneur Jésus, toujours vivant pour intercéder et qui ne se fatigue jamais. Sous un autre angle, les deux hommes peuvent aussi représenter nos frères avec lesquels nous pouvons partager la prière et nous encourager les uns les autres à ne pas y manquer. Nous ignorons les paroles que Moïse a prononcées, mais nous en connaissons le résultat, la victoire du peuple de Dieu. Le veau d'or, Exode 32, versets 7 à 14. Et encore les 12 espions dans Nombre 14, versets 11 à 20. Un certain parallélisme se dégage dans l'intercession de Moïse lors de ces deux épisodes. Nous les considérerons ensemble. Quand l'Éternel annonce à son serviteur le jugement qu'il va exécuter sur le peuple, il ne veut pas simplement mettre Moïse à l'épreuve, mais il parle solennellement du châtiment que sa justice demande. L'intercession du législateur amène Dieu à se repentir, à retarder l'exécution de son jugement, à en modifier l'action et même à pardonner. Telle est la puissance de l'intercession. Exode 32, verset 14, Nombre 14, verset 20. L'Éternel écoute Moïse et retient son propre bras. N'est-ce pas extraordinaire? La souveraineté de Dieu est telle qu'il peut décider une chose et en décider une autre ensuite, selon l'état du cœur de celui qui est devant lui. S'il a pardonné, des conséquences graves de la rébellion ont néanmoins subsisté. Après le veau d'or, 3 000 tués. Après le refus d'entrer en Canaan, 38 ans d'errance à travers le désert et la mort de toute une génération. Fondamentalement, Dieu a pardonné, mais son gouvernement a dû quand même s'exercer, toutefois avec mesure pour que finalement Israël entre en Canaan. Il est instructif de voir quelle fut la demande de Moïse. Les deux prières sont similaires. Dans l'un et l'autre cas, Dieu propose à son serviteur de faire de lui le père d'une grande nation, après avoir détruit les tribus révoltées. Qu'aurions-nous répondu? Peut-être aurions-nous dit, ce sont des rebelles, ils ont bien mérité d'être anéantis. Si tu veux faire de moi une grande nation, pourquoi m'y opposerais-je? Mais Moïse a une telle humilité et un tel amour pour le peuple de Dieu qu'il intercède en leur faveur contre ses propres intérêts. Et même dans une autre prière, il va jusqu'à demander à Dieu de l'effacer de son livre s'il ne peut pardonner aux coupables. En Exode 32, verset 32. À deux reprises, il refuse de devenir le père d'une grande nation. Il rappelle chaque fois la gloire de Dieu qui sera foulée aux pieds dans les pays d'alentour, si Israël, qu'il a délivré d'Égypte, périt dans le désert. Elles diront, leur Dieu n'était pas assez fort pour les conduire au but. Dans l'intercession, rappelons les promesses de Dieu, tu as dit, tu as promis. Mais connaissons-nous assez ces promesses de la parole pour nous appuyer sur elles? Pourtant, quand Moïse demandera plus tard de pouvoir lui-même entrer dans le pays et le voir, sa prière ne sera que partiellement exaucée. Il n'avait pas de promesse à rappeler. Dieu avait dit, tu n'entreras pas. Mais au sommet du mont Nebo, que le vieillard avait gravi solitaire, l'ami fidèle qu'il avait accompagné tout le long de la course s'est approché et lui a fait voir tout le pays. En Deutéronome 34. Plus tard encore, Moïse posera les pieds en Canaan. Il apparaîtra en gloire avec Élie et sur la montagne de la Transfiguration s'entretiendra avec son Seigneur. Revenant aux deux prières du conducteur, nous constatons que Dieu a pardonné, mais les conséquences du péché ont subsisté. Nous pouvons intercéder pour nos enfants, pour l'assemblée locale, pour tel ami, et Dieu peut pardonner et intervenir miraculeusement. Mais il peut aussi permettre que les conséquences des fautes demeurent, au moins dans une mesure, quoique dans la période de la grâce, il puisse aussi restaurer pleinement, comme ce fut le cas pour Pierre. L'intercession est une prière, mais toutes les prières ne sont pas une intercession. Intercéder, c'est se placer entre Dieu et un autre, et soi-même disparaître. Je ne suis pas en cause, c'est pour un tiers que je prie. Je ne demande pas pour moi, mais pour lui. L'intercession peut avoir une puissance toute particulière. Dieu compte sur celle de ses enfants pour que bien des choses soient modifiées. En Ésaïe 59, verset 16, il s'étonne qu'il n'y ait personne, pas d'intercesseur. En quelque sorte, Dieu a disposé les choses pour que les siens interviennent comme intercesseurs et l'amènent à pardonner, à redresser, à restaurer. Il l'a voulu ainsi et s'étonne que l'on n'intercède pas. Au psaume 106, verset 23, il dit qu'il les eût détruits si Moïse, son élu, ne s'était pas tenu à la brèche devant lui pour détourner sa fureur, de sorte qu'il ne les détruisit pas. Sommes-nous prêts à nous tenir à la brèche, à être des sentinelles pour les assemblées, pour nos familles, pour l'œuvre du Seigneur, pour ses serviteurs? Dieu en cherche de tels et s'étonne qu'il n'y en ait pas davantage. Quatrième partie, les expressions et gestes prophétiques. Dans les prières telles que les supplications, les pleurs et l'intercession, ces prières sont souvent exprimées par des gestes physiques, exprimant ce que les intercesseurs vivent dans la prière. Ces gestes sont appelés gestes prophétiques car ils montrent l'expression du cœur des intercesseurs. Petit 1. Étudions les expressions prophétiques du prophète intercesseur Jérémie. Les gestes prophétiques et symboliques de Jérémie sont souvent assez spectaculaires. Ainsi, Jérémie reçoit-il un jour l'ordre de Dieu de se faire un joug avec des barres de bois et des cordes et de les porter sur ses épaules en public et devant le roi Sédécias en proclamant « La nation qui offrira sa nuque au joug du roi de Babylone et le servira, je lui accorderai du repos sur son sol. Oracle du Seigneur. » Jérémie parle au nom de Dieu, mais ce message défaitiste de reddition à l'ennemi est choquant et difficile à croire. Pour donner plus de poids à sa parole, il la mime et montre ce qui va arriver, la soumission inévitable des Judéens à Babylone. Jérémie a fait encore bien d'autres gestes symboliques. En voici quelques-uns. Dans Jérémie 13, la ceinture pourrie. Le geste symbolique est d'autant plus parlant qu'il est insolite. Jérémie va d'abord s'acheter une ceinture précieuse, tissée de lin, comme en portaient les notables. Puis après l'avoir portée quelque temps, toujours sur l'ordre de Dieu, il va la mettre dans la fente humide d'un rocher, au bord de l'Euphrate. Plus tard, quand Dieu l'envoie la rechercher, la belle ceinture est pourrie, comme on pouvait s'y attendre. Jérémie explique ensuite ses gestes étranges. Le Seigneur s'est attaché à Israël comme une belle ceinture, mais détachée de son porteur et imprégnée des eaux de Babylone, elle est pourrie. Israël va donc à sa perte en s'éloignant de son Dieu. Le geste du prophète est d'autant plus symbolique qu'il s'est étalé dans le temps, comme l'alliance entre Dieu et Israël qui se dégrade progressivement. Ce qui est arrivé à la ceinture arrivera inévitablement à Israël s'il persiste dans son infidélité. Mais il peut encore changer de conduite en s'attachant de nouveau à son Dieu par la conversion. Mais comment Jérémie a-t-il pu faire deux fois ce voyage de 1 200 km jusqu'à l'Euphrate? On peut penser qu'il joue effectivement sur le nom du fleuve Pérat en hébreu, qui est aussi le nom d'un wadi, torrent à quelques kilomètres d'Anatote, l'actuel Ein Phara. En tout cas, Babylone est bien la source principale de corruption pour Israël et c'est là-bas qu'aura lieu l'exil un peu plus tard. Le célibat de Jérémie, dans Jérémie 16. Le geste prophétique est ici très fort. Il s'agit de sa propre existence et surtout d'une manière de vivre permanente. En effet, Dieu lui demande de renoncer à ce que vivent tous les Israélites, le mariage et la paternité. En fidélité à son Dieu, il accepte la solitude et la stérilité pour devenir un signe vivant et permanent pour ses contemporains, tentés par l'oubli et l'insouciance. Il leur annonce le temps de solitude et de stérilité que sera l'exil s'ils s'obstinent à refuser toute conversion. La cruche brisée, dans Jérémie 19, versets 20 et 6. Non, dans Jérémie 19 et 20, verset 6. Le théâtre de cette action symbolique en public est la vallée de Ben-Hinnom qui contourne Jérusalem à l'ouest et au sud. Elle était mal famée car on y pratiquait parfois des sacrifices d'enfants, voir Jérémie 7, versets 31 et 32. Cette pratique monstrueuse prouve qu'Israël a brisé l'alliance avec Dieu. Jérémie doit donc aller y briser une cruche pour montrer que Dieu va lui aussi briser ce peuple et cette ville comme on brise le vase du potier qui ne peut plus être réparé. Parce qu'il vient de Dieu, ce geste est terriblement efficace. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce geste rappelle un acte magique pratiqué en Égypte. On écrivait les noms des ennemis sur un vase, puis on brisait le vase en proférant une malédiction pour obtenir leur destruction. Ici, c'est Dieu qui, dans sa liberté et sa transcendance, annonce les conséquences inévitables de la rupture de l'alliance. Ce sera l'exil et la destruction de Jérusalem. L'achat du champ. Jérémie 32, versets 6 à 15. C'est ici une scène de la vie ordinaire qui devient symbolique de l'avenir d'Israël. Le cousin de Jérémie, appréciant raisonnablement la situation, lui propose d'exercer son droit de rachat sur un terrain dont il veut se défaire. Le rachat par le prophète est insolite, mais surtout à vue humaine très imprudent. L'armée de Babylone campe autour de Jérusalem et l'avenir est bouché. Ce n'est pas le moment de vendre ou d'acheter. Lui qui, de la part de Dieu, annonçait la ruine prochaine, est maintenant invité par ce même Dieu à croire en l'avenir. Dieu peut-il se contredire? C'est toi, Seigneur, qui me dis, achète ce champ à prix d'argent et prends des témoins, alors que la ville est livrée aux Chaldéens. Petit 2, sens des gestes prophétiques. Ces gestes prophétiques sont des procédés de communication fréquents dans la Bible, et particulièrement chez Jérémie. Ils concernent le prophète lui-même, comme le célibat de Jérémie, ou autrefois le mariage d'Osée avec une prostituée, Osée 1, versets 2 à 9. Ils peuvent concerner sa famille, Ésaïe 8, versets 1 à 4. Le plus souvent, ils portent sur des objets symboliques. Un exégète en a répertorié 33 dans toute la Bible. Voir aussi le geste d'Agabus à Césarée en Actes 21, versets 10 à 12. Parce que c'est Dieu qui inspire ces gestes aux prophètes, ils sont efficaces. La parole de Dieu qui les accompagne les arrache à la magie à laquelle ils peuvent ressembler. Le geste prophétique exprime le double dialogue de Dieu avec son prophète et par lui avec son peuple. Quand la parole ne passe plus, quand la crise est telle que la communication est brisée, Dieu choisit ces modes d'expression surprenants et provoquants. Ainsi le prophète restaure un certain dialogue. Le geste devient langage et la conversion redevient possible. Fin du cours. Questions sur le cours. Première question. Dans des situations graves, associé à la prière de supplication, à quoi sert le jeûne? Qu'apporte-t-il en plus spirituellement dans cette situation? Donnez des versets bibliques. Deuxième question. Dans des situations graves, est-ce que la prière de supplication à Dieu est une arme de guerre et de combat face à l'adversaire? Devant le trône de Dieu, à quoi sert la supplication et les larmes? Comment doit être votre état de cœur? Troisième question, qu'est-ce que l'intercession? Expliquez-la avec des versets bibliques. Est-ce que l'intercession est plus forte que la prière générale? Quel engagement demande-t-elle dans la vie du chrétien? Quatrième question, qu'est-ce que l'expression et geste prophétique d'intercession? À quoi sert-il? Donner des versets bibliques.